Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC. Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis sur RMC entre 22h et minuit avec toute l'actualité internationale, nos drôles de dames, le foot espagnol, anglais, italien, allemand, avec en plus une belle semaine de Ligue des Champions. Plein de choses à vous dire, mais plein de choses à vous dire aussi sur la Ligue 1 avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, salut Pierre.
Salut Daniel, salut Jean-Louis.
Tout va bien? Vous êtes remis de votre gros dimanche, parce qu'on vous retrouve le dimanche soir aussi. Donc, il y a eu un gros match,
grosse affiche.
Il fallait s'en remettre de ce Montpellier-Marseille.
Oui, bah tu rigoles, mais il fallait s'en remettre.
Dans tous les sens du terme.
Ouais. Il n'y avait pas que ce match hier, il y en avait deux autres et c'était pas mal.
C'est vrai.
Exactement,
c'est vrai. Exactement.
Match
c'est
à Caen, Caen-Lyon.
Voilà. Lui d'hier soir, il fallait pas avoir fait beaucoup de choses le week-end, sinon tu pouvais un peu piquer du nez.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que tu t'es endormi, ça. T'avais fait beaucoup de choses.
C'est difficile sur les
tennis.
C'est difficile sur les chaises là-haut de s'endormir.
Ah oui.
Ça m'est arrivé.
C'est possible. Hein,
non. Ça m'est arrivé. Non. Parce que c'est Jérôme Roten qui m'a réveillé. C'était cette semaine.
G3.
Non, il y avait journée
de Ligue 1.
Non, c'était mardi. D'ailleurs, le match de Bordeaux Saint-Etienne.
Mardi soir.
Oui. Moi, je l'ai fait au Stade Louis II.
De t'endormir.
Ouais. Au stade, carrément.
Et c'était. Ouais.
J'allais voir un Monaco.
Parce que c'est pas méga confort les fauteuils.
Ah ouais, mais j'ai piqué du nez. Alors, j'ai pas dormi une demi-heure. Hein. J'ai piqué du nez. Je me suis vu m'endormir.
Ah ouais. Mais bon, comme moi, le soir.
C'était il y a 2-3 ans. Hein. C'était pas le Monaco. Monaco l'année dernière. L'année dernière, tu t'endormais pas.
Ce soir, vous ne vous endormirez pas. Promis. Enfin, on va essayer en tout cas dans l'after. Bah, c'est que c'est mauvais signe quand même. On a des questions a priori pour vous réveiller. Des questions de l'after dans 3 quarts d'heure. Mais on va commencer par les avis tranchés. Celui de Pierre va concerner les entraîneurs français qui sont en train de reprendre
le camp d'hier d'ailleurs, ouais, par exemple.
Ceux du milieu de tableau, grosso modo. Hein, ceux
ouais,
qui arrivent
milieu,
à faire beaucoup
même,
avec
même
eux.
Même fin un petit peu.
C'est ça. Mmh. Et Daniel, tu commences par le PSG. On y va, premier avis tranché du soir.
Les mômes qui viennent, gna, Barça, Real.
Même les mômes de 9 ans, j'ai envie de les gifler.
C'est dingue ça, ils font quoi les pères?
Alors Daniel, tu veux revenir sur la défaite du PSG, première défaite de la saison des Parisiens à Strasbourg, 2-1. C'est un simple accident?
Écoute, la défaite, on va l'écarter. Je pense que ce qui aura le plus touché les Parisiens dans cette défaite, c'est de ne pas pouvoir poursuivre le rêve de rester invaincu toute une saison. Et je ne sais pas si les joueurs d'ailleurs seront touchés par ça. Je pense qu'Emery, au fond de lui, avait envie de ce petit record. Mais pour le reste, je pense que tout le monde va vite oublier ça parce qu'il y a Ligue des Champions cette semaine et puis parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de conséquences à cette défaite, en termes de points en tout cas, et en termes de confort en tête du classement, il n'y a pas le feu au lac. Non, ce qui est important, c'est que effectivement, on a revu le côté match de Ligue des Champions et match 3 jours avant ou match après et baisse de concentration. T'es obligé forcément d'accéder à ce que dit Daniel Alves, c'est un accident de travail. Oui, on peut ne pas le comprendre et moi, j'ai du mal à le comprendre parce que quand t'évolues à ce niveau d'exigence, moi, ça m'embête un petit peu que tu passes complètement au travers, même si ça reste du sport. Et dans le sport, ce genre de choses peuvent se comprendre. Je peux aussi comprendre que ce soit difficile à admettre. Une fois que tu as évacué cette défaite, en plus, il faut féliciter Strasbourg et surtout l'ambiance de la Méno. C'était vraiment extraordinaire. Tout était parfait. Il faut se projeter sur la suite et sur le test, parce que c'est un test demain soir. Et c'est le deuxième. Dans la saison du PSG, il n'y en a pas des masses, des tests, parce que quand tu survoles la Ligue 1 et puis que de toute façon, t'es meilleur que tes adversaires, oui, il faut bien le dire, hein, quand tu fais une contre-performance en Ligue 1, c'est parce que le PSG a moins bien joué. Je suis désolé hein, que ça touche les autres ou que les autres.
Thierry Laurent était énervé d'entendre ça.
Mais oui, mais c'est la vérité. Et ça n'empêche pas de dire bravo Strasbourg. Ça n'empêche pas de voir à quel point la méno était fantastique, à quel point les joueurs ont fait un match vaillant, courageux. Mais si le PSG veut, le PSG leur colline
il faut qu'il y ait deux choses à chaque fois, un match parfait d'un côté et un match un peu en deçà de l'autre.
C'est vrai. Mais on peut comprendre que l'entraîneur sur le moment.
Ouais, mais il veut qu'on dise quoi dans
Strasbourg
et
meilleur que le PSG. Non, mais il était à chaud,
il veut
frustré,
rien. Il est dans la pression, il est dans le travail tous les jours. Il a l'impression que sa performance est réduite. Voilà. Et en deux secondes, il a dû prendre du recul et comprendre.
Une fois que tu dis qu'ils ont fait un super match, qu'ils se sont battus, qu'ils ont été courageux, que c'est pas la première fois qu'ils avaient fait le même contre l'OM, que depuis le début de la saison, on aime beaucoup ce que fait Strasbourg, on adore la méno, mais il veut quoi de plus? Il veut qu'on dise que Strasbourg c'est plus fort que le PSG. Non, faut pas raconter de bêtises.
Non, mais il le sait en plus.
On le dit, la vérité elle est claire, on le dit. Et effectivement, si le PSG veut, le PSG bat tout le monde. De toute façon, on le sait, c'est comme ça depuis des années. Bref. La Ligue 1 étant ce qu'elle est, chaque année, on est dans le même scénario. Le PSG avance à, grosso modo, deux tests entre septembre et décembre, en attendant la suite. C'est un petit peu comme les examens scolaires. On en a eu un de rentrée en septembre contre le Bayern. Ça s'est bien passé. C'est toujours pareil. Tu dis, bon, ok, le Bayern, t'es peut-être pas complètement prêt. C'était une période un peu délicate. On sait qu'Ancelotti, hein. T'as pris une bonne note. Tant mieux pour toi. Deuxième examen, celui d'avant Noël, fin de trimestre. Celui-là, à mon sens, va être encore plus important parce que tu vas tomber contre une équipe, à mon sens, bien plus motivée. Tu la joues chez elle. Je suis pas sûr qu'elle est en tête de faire l'exploit d'aller lui choper la première place au PSG, mais juste de la battre.
Ouais.
D'abord parce qu'il y a, je pense, une volonté très forte des dirigeants. D'abord l'orgueil d'une grande équipe, d'un grand club. Aussi, hein. La volonté des dirigeants qui sont clairement philosophiquement en guerre contre le PSG d'envoyer un message. Le Bayern aujourd'hui se fait partie un peu des ennemis du PSG. Donc il y a réellement une volonté d'aller vraiment battre ce PSG. Et là se posent donc les questions de ce test-là. Les questions à mes yeux, c'est collectivement comment le PSG va réagir à la pression qui va être mise. Parce que ça, on ne le sait pas parce qu'on l'a pas en Ligue 1.
Cette saison,
on sait que si Strasbourg le fait, les bouscules, ça emmerde le PSG, mais le PSG en même temps n'est pas super concentré. On a vu en Ligue 1 quelques matchs où le PSG a été embêté quand il est bousculé et pressé, on l'a vu au Vélodrome. Là, on passe avec le Bayern trois niveaux au-dessus de l'OM, de Strasbourg, de tout ça. On est ailleurs. Donc, comment le PSG va réagir là? C'est la première question. Puis après, il y a des zones dont on parlait plus ces derniers temps, mais je sais pas que je pensais qu'on avait évacué les problèmes, mais c'est vrai que quand t'en parles plus, t'y penses un peu moins. Mais le poste de gardien reste un problème.
Est-ce qu'on rentrerait pas dans les détails poste par poste
dans une seconde?
Non, tu veux tout finir d'un coup? Pierre peut peut-être réagir d'abord sur ce que tu viens de dire, et après on rentrera dans le détail des postes.
Tu vas pouvoir continuer très rapidement parce que ma réponse à ta question, je suis beaucoup moins inquiet finalement dans ce genre de match pour le Paris Saint-Germain cette saison.
Mais il ne s'agit pas d'être inquiet.
Non, mais non,
il s'agit de poser des questions et de savoir.
Comment va aborder le PSG collectivement ce match?
C'est pas comment ils vont l'aborder. Je sais qu'ils vont l'aborder au taquet.
J'ai pas compris ta question.
Non, mais ils vont l'aborder au taquet. C'est comment ils vont réagir. Non, mais c'est
ils vont faire le même type de match, moi pour moi, hein, qu'à l'aller. Et en plus, c'est une configuration qui leur va comme un gant.
J'ai juste envie de savoir s'ils vont gagner ou ils vont perdre.
Ouais, alors ça, je peux pas te répondre encore, malheureusement, je suis pas devin, mais moi, j'ai très envie de penser que l'activation mentale va être à son maximum, comme tu l'as dit, et que c'est un match qui correspond aux qualités du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que si t'es costaud derrière et que tu peux subir un petit peu avec ton milieu de terrain qui est costaud, t'as les trois devant qui vont aller à 2000 à l'heure
et qui vont porter bien le match. Je veux juste voir ce que ça donne contre une grosse équipe, parce qu'on ne le sait pas.
Alors, il y a un truc que tu sauras pas non plus demain, c'est comment le PSG réagit avec la pression du résultat. Parce que quand t'as gagné 3-0, t'auras une pression au niveau du jeu avec une adversité que t'as pas connue encore.
Mais sur la pression du résultat,
tu sais que tu peux même te permettre de perdre.
Deux choses là-dessus. Je pense pas que le PSG ignore que s'il perd demain, il va essuyer beaucoup de critiques et beaucoup de remises en cause. Et même dans leur tête à eux, il y aura du doute.
Ouais.
Même si c'est que 1-0 et qu'ils finissent premier du groupe, parce qu'ils savent, eux, que les seuls tests qui passent, c'est en Ligue des Champions. Donc, eux, ils ont besoin de réponses. Et oui, ce que tu dis, très bien. Moi, je suis, évidemment que ce sera encore plus compliqué après, puisque je suis en train de parler de quelque chose qui ressemble à une année scolaire quand tu as les tests qui, les tests qui s'enchaînent.
Demain, c'est le bac.
Ensuite, les autres questions, c'est le poste de gardien.
On a eu un auditeur dans Team Duga qui était remonté contre Areola.
Ouais. Moi, je continue à avoir beaucoup de doutes à son sujet. Moi, j'ai beaucoup de doutes à son sujet.
Ça dépend. C'est quoi tes doutes? Est-ce qu'il fait partie des 6-7 meilleurs gardiens en Europe, par exemple?
Il est pas dedans.
Non, il est pas dedans. Donc, c'est même pas des doutes. Ouais, c'est même pas des doutes. Moi, je pense que c'est un gardien qui a besoin de progresser et de grandir encore.
Mais le problème, c'est est-ce que le PSG peut se permettre d'avoir un gardien qui doit progresser?
T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que t'as fait des choix cet été qui t'ont interdit d'aller chercher un grand gardien.
Eh ben Pierre.
Voire même, est-ce qu'il y avait des grands gardiens disponibles à ce moment-là?
Eh ben Pierre, c'est pour ça que je dis que c'est une question et que je vais avoir une réponse. C'est une question. Autre question. Comment tu peux faire la saison sans arrière gauche? Parce qu'il y en a pas. Clairement, il faut se le dire, il y en a pas. C'est un vrai problème au club.
Il y en a pas de très bon niveau.
Et toutes les équipes sont au courant. Toutes les équipes passent de ce côté. Au bout d'un moment, on va arrêter la blague de l'acharnement, que ça va, machin. Soyons sérieux, aujourd'hui, tous les clubs sont au courant et tous les clubs passent de ce côté. Et que ce soit Kurzawa ou Berchiche, c'est pas bon, clairement. Donc ça, c'est un problème. Et on va voir demain contre une forte équipe ce que ça donne de ce côté-là. Oui, ce sera Kurzawa, mais voir. On ne sait pas comment, dans un match de ce niveau-là, réagit le nouveau milieu d'Emery. On l'a pas vu. C'est-à-dire Verratti, Rabiot, Draxler. Faut qu'on voit ça demain aussi. Moi, je suis pas en train de vous dire que ça va pas marcher. Je pose des questions. Et j'ai aussi envie de voir Neymar pour son premier match à l'extérieur, avec pression, face à un gros adversaire. Ça aussi, j'ai envie de le voir parce que les matchs où il dribble 4 mecs et où il s'arrête en attendant que l'arbitre lui siffle la faute et tout, en Ligue des Champions, ça marche pas ça.
Non.
Donc.
Ou les matchs où il a un petit peu moins envie de jouer.
Oui, voilà.
Comme à Strasbourg.
Donc, ça ne marche pas. Et je terminerai avec donc la vie tranchée. Tout le monde se demande si le PSG est un candidat sérieux uniquement parce qu'il a beaucoup recruté. Moi, je dis que ça voudra pas dire à contrario l'inverse de ce que je vais dire. Mais si le PSG gagne demain à Munich, alors là, pour moi, il devient un sérieux candidat à la Ligue des Champions. Et ça veut pas dire que s'il gagne pas, il n'en est pas un. Mais demain, pour moi,
il
affirme quelque chose.
On va donner la parole à Yacine au 32-16 dans un instant, mais juste avant, écoutez Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern, qui était en conférence de presse aujourd'hui. Il insiste sur l'importance du match pour eux, les joueurs du Bayern, demain.
On veut surtout envoyer un message à l'Europe, avant tout, pour dire que voilà, le Bayern est là et le Bayern postule à gagner cette Ligue des Champions. Après, dans la saison, on perd des matchs, c'est normal, et faut apprendre de ses erreurs, mais faut pas rester focalisé sur le match qu'on a perdu. Donc, le match est un peu passé dans notre tête. Certes, c'est un peu une revanche, mais rien de personnel contre le PSG. On veut surtout montrer à l'Europe que voilà, que cette année, on est encore en position pour la Champions League et contre les grosses équipes, on peut bien jouer.
Alors ça, c'est quand même la mode 2017-2018. Envoyer un message à l'Europe, c'est quand même le nouvel élément de langage.
Oui.
Le PSG a fait ça pendant 5 journées, envoyer des messages à l'Europe après chaque match de Ligue des Champions, et Kingsley Coman répète la même chose. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la vie tranchée de Daniel? Est-ce que selon toi, si Paris gagne demain, ce sera un candidat à la victoire finale?
Non, moi je pense que c'est déjà un candidat à la victoire finale. Je pense que c'est déjà un candidat.
Comment tu fais toi pour savoir ça?
Non, je pense. J'ai pas de certitude. C'est mon opinion. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
quand t'as pas les affrontements.
Comment je la construis? C'est simple. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le Paris Saint-Germain était une équipe qui allait en quart de finale de Ligue des Champions. Tu rajoutes à ça un Cavani qui continue à marquer. Donc tu rajoutes pas, mais tu continues plutôt. Tu rajoutes Mbappé. Tu rajoutes Neymar. Alors certes, t'as pas de latéral gauche, mais t'as une défense qui est quand même très correcte parce que t'as maintenant Dani Alves aussi à droite.
Donc tu veux dire qu'ils ont progressé en qualité.
T'as des hommes d'expérience en plus, tu vois. Alves, Neymar, l'air de rien, il commence à avoir un petit peu de bouteille en Ligue des Champions quand même.
Oui, non, mais que l'effectif soit plus fort.
T'as peut-être un milieu de terrain qui va devenir plus fort que le milieu de terrain qui était déjà costaud il y a 2 ans maintenant, quand t'avais Mota qui était un meilleur que maintenant et Matuidi Verratti qui était bon.
C'est comment ils réagissent dans l'adversité de la grosse pression.
Ouais, non, t'as aucune certitude.
Parce qu'ils sont pas habitués à ça.
T'as aucune certitude.
C'est l'habitude de ça, en fait.
Mais j'ai envie de dire, et un peu comme t'as fini, que ce match, effectivement, va peut-être nous conforter d'un côté ou de l'autre, mais que finalement on s'en fout, quoi, parce que qui gagne ou qui perde, c'est la suite qui va être importante. C'est le tirage en quart de finale pour voir contre qui tu vas tomber, si tu vas passer ces fameuses quarts de finale enfin. Ouais. Et voilà, et si tu passes les quarts de finale, t'es dans le dernier carré. Et là, pour moi, une équipe comme le Paris Saint-Germain, au même titre qu'un Barça, qu'un Real, a toutes ses chances sur des matchs comme ça.
Yacine nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Yacine.
Oui, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Daniel et bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors Yacine, pour toi, quelle importance a le match de demain?
Oui, ça va être quand même un bon test. Avec ce nouveau milieu de terrain, c'est ça qui m'intéresse également. Je suis pas vraiment inquiet sur la physionomie du match. Je pense que ça va être un Bayern qui va avoir la possession, qui va agir vite dans les phases de transition, qui va aller très vite devant, comme un peu à l'aller. Et Paris qui va partir très vite en contre. Après, là où disons Paris, faudra pas qu'il se foire, c'est sur les deux derniers matchs, notamment championnat contre Strasbourg et Troyes, c'est sur l'efficacité.
Ouais,
c'est l'efficacité qui compte pour moi. Après, Strasbourg, je mets ça à part. Les occasions étaient là, ce n'est pas rentré, mais le but, c'est d'avoir des occasions de se les créer. Et là, ce qui comptera sur ce match-là, c'est les mettre au fond. C'est vraiment ça qui compte pour moi. Après, je n'ai pas d'inquiétude sur le milieu de terrain, notamment sur Draxler. Je pense qu'il fera son match. Je pense qu'on a un Rabiot qui est de plus en plus confiant et qui prend de plus en plus d'épaisseur, en tout cas. Et ça fait plaisir à voir. Après, sur Areola, je ne me fais pas trop de soucis, dans le sens où il était plutôt à l'aise jusqu'à présent, dans ses sorties notamment, dans ses sorties aériennes, où il a montré beaucoup de sûreté.
Après, mais en progression, oui, t'as raison.
Mais disons, ce qui m'a un peu chamboulé, c'est pourquoi il a mis Trapp contre 3, quoi. C'est ça que je n'ai pas vraiment compris.
Bah, pour lui donner un match, quoi.
Ce n'était pas vraiment utile. Après, je voulais faire une petite parenthèse.
Pour lui donner un os à ronger. Mais en fait, quand tu dis c'est pas utile, c'est quoi le problème, en fait? Vous pensez que ça a perturbé Areola qu'il ait fait jouer Trapp contre 3?
J'espère pas, parce que sinon ça veut dire qu'il est faible mentalement.
Et si ça le perturbe, faut qu'il aille jouer en DH.
Mais je comprends ce que veut dire Yacine, c'est que c'est un poste où logiquement, quand t'as ton numéro 1 en championnat,
pour les coupes, ça suffisait largement. Mais par rapport au poste de latéral, notre fameux point faible, certes, alors on en a peut-être deux qui ne sont pas au top niveau, et je me fais pas de soucis, je pense que Paris recrutera ce poste-là, peut-être même en hiver. Mais par contre, quand j'entends hier un certain Pierre Ménès qui s'acharne gratuitement sur Berchich, faut arrêter deux minutes, quoi. Faut arrêter deux minutes. Berchich, il a pas le même temps de jeu que Kurzawa. Berchich, il fait pas les mêmes sorties que Kurzawa, ok, extra sportive également. Donc voilà, faut juste à un moment donné mettre les points
de l'heure. Il peut critiquer Berchich si dans le même temps il n'oublie pas de critiquer le titulaire du poste, quoi.
Exactement. C'est ce deux poids deux mesures qui me gêne beaucoup. Après,
mais quand t'as des amis, après il faut.
Et ce n'est pas la première fois, puisque ça a été pour en revenir sur le match, l'efficacité qui comptera vraiment plus pour moi, parce que je pense que Paris aura les occasions, le Bayern également, mais l'efficacité, c'est surtout ça, surtout Mbappé.
Très bien Yacine, merci. Cadeau de l'after, on t'envoie le bouquin 11 mondial, 40 ans d'exploits du foot français. Et oui, il y a eu 40 ans d'exploits du foot français. Daniel, ça lui fait bizarre d'entendre ça, mais il y en a eu quelques-uns quand même.
40 ans d'exploits du foot français avec équipe nationale dedans.
Ah bah oui, j'espère, oui.
Ah ouais, parce que sinon...
Sinon, c'est compliqué. Merci Yacine, à bientôt sur RMC. T'as vu, Daniel, j'imagine, si t'as pas échappé la nouvelle coupe de cheveux de Kurzawa. On te l'a envoyé, j'imagine, sur Twitter.
Quoi? Mais je sais même plus quoi dire, je suis tellement désolé et affligé par ça.
Moi je l'ai même pas vu, moi.
Ah bah on va te la montrer.
Ah, je l'ai même pas vu.
Pas de problème. Quant à son niveau et tout, tu cherches même pas à être discret.
Il a le droit de se coiffer.
Je sais pas, j'ai pas vu, je peux pas juger, mais j'ai pas vu.
Ton petit manège exprès pour m'énerver, c'est ridicule.
Alors là, franchement, c'est pas mon genre.
Non, c'est vraiment pas mon genre.
Là, tu te trompes complètement. Dans un instant, la vie tranchée de Pierre Ducrot, consacrée aux entraîneurs français. Et s'ils étaient en train de reprendre la main dans le championnat de France, certains travaillent bien et tu veux insister là-dessus.
Oui. Bah, ça veut dire qu'ils l'ont déjà eu, perdu, oui, et ils la reprennent.
T'as tout compris.
Ah, exactement. Justement, j'ai pas compris, alors.
Allez, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont là comme tous les lundis. Nos drôles de dames se préparent. Les questions de l'after dans quelques minutes également pour balayer l'actu de la Ligue 1 qu'on n'a pas pu aborder ensemble dans l'after. Et là, c'est le moment de la vie tranchée de Pierre Ducrot qui va aborder pas mal d'équipes, justement parce qu'il a repéré une tendance.
Je ne vous jette pas la pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Et oui, une tendance, celle de certains entraîneurs français qui arrivent à faire beaucoup avec peu de moyens.
Ouais, voilà, exactement. Alors on a enlevé le titre pour Daniel parce que ça le perturbait. Mais plus que des entraîneurs français qui reprennent la main, des entraîneurs français qui sont peut-être en train de voir un peu différemment les choses que ces dernières saisons. Comment j'en suis venu à cette idée? On a parlé hier de la cohérence et de la crédibilité d'un Ranieri au FC Nantes, et à juste titre. On a parlé hier aussi que la seconde partie de Monaco serait sûrement meilleure avec son bâtisseur Jardim, celui du temps. On a beaucoup parlé ici même et ailleurs des problèmes de Nice, de Saint-Étienne, de Lille. Tous ces clubs-là ont des coachs étrangers. Moi, ce soir, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur des entraîneurs ou sur des équipes, parce qu'à la base, c'est pas forcément sur des entraîneurs, mais sur des équipes qui sont coachées par des entraîneurs français, en l'occurrence, avec lesquels je prends du plaisir depuis le début de saison. Alors, il s'agit pas là de, et je précise tout de suite d'entrée parce que sinon on va se prendre je vais me prendre des petits tweets aussi. Je déteste pas les entraîneurs étrangers. Je trouve même que c'est une grande chance d'en avoir dans notre championnat parce qu'ils nous apportent plein de choses la plupart du temps. Pas toujours, mais souvent. Il s'agit pas non plus de dire que l'entraîneur français est toujours le meilleur parce que c'est pas vrai non plus. Mais il s'agit de souligner, en quelque sorte, ce que je remarque depuis un petit moment avec des équipes comme Caen, comme Dijon, comme Amiens, comme Strasbourg, dont on parlait tout à l'heure, comme Troyes, avec des entraîneurs, Garande, Dalloglio, Pellissier à Amiens, Garcia à Troyes, Loré à Strasbourg, qui tirent eux aussi, quelque part, la quintessence de leur effectif, qui sont des effectifs moyens de Ligue 1, qui, pour certains, découvrent cette Ligue 1, qui ont, alors certes, cette rigueur tactique que parfois on reproche un peu à la Ligue 1, qui fait d'une Ligue 1 un jeu un peu fermé, mais qui, pour ceux que je viens de citer, la plupart du temps s'attardent aussi sur le jeu et envie de jouer après avoir été tactiquement en place et bien défendu. Je me suis régalé moi cette saison avec plusieurs matchs de ces équipes-là et j'avais envie de le souligner ou d'en parler. Je dis pas une fois de plus que Strasbourg, Troyes, Dijon ont fait que des beaux matchs parce que sinon ils seraient pas là où ils seraient. Mais j'ai très envie que ces équipes-là soient récompensées. Je comprends la frustration de Loré quand il est très très agacé après le match du Paris Saint-Germain, mais je crois qu'il a cette frustration parce qu'il est à chaud juste après le match en conférence de presse. Avec un peu de recul, je suis persuadé que Thierry Loré, qui est très intelligent, saura et reconnaître qu'il fallait un petit PSG aussi pour s'imposer. Ouais. Mais je le comprends parce que c'est des entraîneurs qui, pour connaître bien Pellissier aussi, Garcia et leurs idées et leur conception du football, aiment le jeu. Et on n'en parle pas souvent. Et nous ici, je me suis aperçu en y réfléchissant qu'on en avait quasiment jamais parlé. Vous allez peut-être me faire démentir. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Mais voilà. Donc j'ai très envie de poser la question à Daniel. Est-ce que pour toi, ces équipes-là, par le jeu, vont pouvoir finir devant des équipes ou vont pouvoir en tout cas accrocher des équipes comme des équipes qui sont devant, comme Nantes par exemple, voilà, qui ferment extrêmement le jeu, même s'il y a autre chose, comme Montpellier par exemple qu'on a vu hier contre Marseille. Est-ce que t'as pas envie de les voir devant et est-ce que tu penses ça possible? Voilà, c'est un peu ma question du soir.
Bah oui, évidemment que je préfère tout le temps les équipes qui jouent. Maintenant, je suis pas sûr que ceux que t'as cités soient plus joueurs que ceux que t'as mis en face, quoi. Pellissier, c'est un cas à part. Pellissier, on en a parlé la semaine dernière, pas mal de fois justement. C'est, donc finalement, on allait dans ton sens à ce moment-là. Mais tu sais, l'année dernière, on a beaucoup parlé de Gourvennec.
Ouais.
Et tu l'as pas cité.
Pourquoi non. Tu l'as pas cité? Alors je l'ai pas cité parce que cette saison. Non, pas pour ça. C'est parce que en termes de jeu, pour l'instant, je ne vois pas le Bordeaux qu'effectivement j'attends avec Jocelyn Gourvennec.
Parce que probablement.
C'est pas que de sa faute, hein. On est d'accord. Ouais. Hein, mais c'est sûrement aussi un peu les joueurs. Non, Duprat, non.
Bah pourquoi?
J'ai pas dit que j'allais citer tous les entraîneurs français avec
des effectifs qui font du jeu.
Moi, j'adhère très peu au système Duprat et même plus loin que ça, après le jeu, etc.
Parce que l'année dernière, on était en 2016, mai 2016 et le mois de novembre 2016, tout le monde en parlait en bien.
Ah non.
Tout le monde en parlait par le jeu. Donc j'ai peur. Mais quand il donnait certaines interviews, lui aussi a commencé à parler de ça et on lui a accordé beaucoup de crédit à ce moment-là. Donc moi je reste sceptique globalement.
Ce qui veut pas dire que moi
sauf sur Pellissier qui a vraiment quelque chose d'un petit peu différent.
Oh, Garcia à 3, tu peux pas dire qu'il essaie pas de jouer aussi.
Garcia, moi j'ai vu pas mal de matchs, j'ai beaucoup suivi que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, après c'est des gens dont il faut louer le travail parce que c'est des mecs sérieux qui font avec ce qu'ils ont, ils essayent. Maintenant t'as pas là-dedans de mecs vraiment différents, c'est tout le temps un peu le même discours, t'as pas de type vraiment ouais. Pélissier, il faudrait peut-être plus le faire parler parce que lui il est un petit peu mieux que la moyenne.
Dalloglio aussi à Dijon. Pour toi, ouais, c'est ce que j'allais dire, un Dalloglio
aussi.
Et même si, un Thierry Loret, Thierry Loret, pour toi,
on l'a vu partout, on l'a vu à Montpellier, on l'a vu en Ligue 2, on l'a vu partout.
C'est tout. Je suis pas d'accord.
Thierry Loret, c'est la même, c'est René Girard en plus jeune. C'est Antonetti, c'est les mêmes, c'est pareil.
C'est
pas d'accord. Je t'assure que c'est
dans les principes et dans la volonté.
C'est cette école là, je m'énerve si tu fais la moindre critique.
Ça c'est différent. C'est sur le plan de la com.
On veut pas débattre.
Et ça tu t'aimes pas. Mais sur le plan sur le terrain, moi je parle.
T'as pas fait de foot, t'y connais rien. C'est cette école là. Je te promets que c'est cette veine là quoi.
Alors je reçois ça, mais je pense pas ça moi.
Je pense que c'est un peu cyclique et que pour deux que t'as cités, ouais. Après, je te dis, l'année dernière c'est cyclique parce que Gourvennec faisait partie de la nouvelle école, on le mettait en avant parce que lui c'était le jeu. Et tout. Et moi, je pense qu'il les a toujours ses idées, mais que confronté à une intersaison qu'il a pas gérée comme il a voulu, une perte de confiance de son groupe, certains changements que lui aussi a foiré, mine de rien.
Bah oui, et des choix de joueurs aussi.
Exactement, c'est ce dont je parle, tu as raison. Oui. Et bah, il se retrouve un peu plus emmerdé. On a vu le match qu'ils ont fait là. C'est lequel qui est passé là?
À Saint-Etienne.
Bordeaux-Saint-Etienne.
Non, celui d'avant encore.
Dijon. Ah non, d'avant.
Contre l'OM.
Ah oui, oui.
Contre l'OM, pas bon à attendre, sans véritable initiative, à part au début où ils avaient mis une sorte de pressing histoire de donner bonne impression d'entrée avant de se replier derrière. Je sais pas. Bon, le discours sur l'entraîneur français, il est un petit peu plus profond. J'en ai parlé avec Hubert Fournier la semaine dernière, là, le DTN. Moi, tant qu'on m'aura pas montré que pour passer les diplômes, tu peux être autre chose qu'un ancien joueur, tu peux arriver avec des idées différentes et l'instructeur va pas te dire que t'as pas le droit d'en avoir. Quand on aura des coachs,
ça, je suis d'accord. Tu trouves pas que ça change un peu ça quand même?
Mais ça change pas justement. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont pas ouvert le truc.
Oui, eux.
Ils ont pas ouvert.
À la Fédé, oui.
Mais à la Fédé, ils ont pas ouvert.
Mais je pense qu'il y a certains hommes qui ont une formation d'entraîneur.
Ouais,
très cher.
25 000 balles.
30 000, tu peux jusqu'à 30 000.
Ah, je m'étais arrêté à 25 000.
Non, parce que t'as le coût de la formation, mais t'as l'hébergement que tu payes en plus, t'as la nourriture sur place, etc.
On s'ouvre pas aux horizons d'hiver. On est toujours un pays où Jardim, Mourinho, Sarri, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Donc moi, tant que tout ça n'aura pas évolué, t'auras épisodiquement des mecs.
Ça évolue un peu, ça aussi. Ça évolue un peu.
En fait, les mecs vont avoir des idées différentes parce qu'ils vont être pris dans le courant actuel qui veut qu'on voit quand même les choses un peu différemment. Bien à eux.
Il y a un truc quand même d'enfin changer
la mentalité. Mais dans leur formation, je sais que le président de l'UNECATEF, donc le syndicat des entraîneurs, est toujours le même. Et que pour moi, c'est absolument délirant.
Le truc que tu peux pas enlever, c'est les nouvelles têtes quand même. Il y a des nouvelles têtes en Ligue 1 sur les bancs de touche.
Bah, bien,
et là, on
en cite
certains.
Oui.
Ouais,
ces
nouvelles têtes font partie plutôt d'un courant qui est un peu différent.
Oui,
quand même.
Évidemment.
Pendant combien de temps vous avez entendu plein de ça dans l'after?
Bien sûr.
La machine à laver.
Voilà. Et tout. Bah, il fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Tu sais, on a quand même fait
déjà qu'il y ait des Dalloglio et des Pélissier. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais au moins qu'ils soient là, c'est bien.
Bien sûr.
Et Dalloglio, on n'insiste pas.
Pélissier, il est là parce qu'il a fait les différentes montées. Sinon, tout lui était fermé. Il pouvait pas.
Ouais, non, mais c'est compliqué pour tous ces coachs-là. Ça, je te rejoins. Ce qui n'empêche pas qu'il y en a certains qui arrivent à passer au travers des mailles
du filet. Et encore heureux qu'on a certaines mentalités différentes. Après, rien ne bouge. On reste toujours le pays où les gros clubs, à part Lyon, qui est très franchouillard, ne veut plus d'entraîneur français. Notre plus gros club n'imagine absolument pas de bosser avec un entraîneur français, par exemple. Quand Emery va partir à la fin de cette saison,
ils l'ont fait 3 ans.
Ouais, mais bon. Non sans critique.
Après,
et non sans ça se termine comme ça se devait se terminer.
À ce niveau-là, parce qu'on va rester objectif, on va pas mettre encore Pélissier au PSG.
Donc t'en as pas.
À ce niveau-là, qui tu vas chercher? Non, t'en as pas beaucoup.
T'en as pas, donc c'est un vrai problème.
Ah ça, pour ce niveau-là, oui.
Tu peux avoir un Italien, un Portugais, tu peux avoir...
Ça je suis d'accord.
Il y a que les Anglais qui vont faire pire que nous à ce niveau-là. Ah bon, voilà. En Allemagne, tu te retrouves avec Tuchel bosse plus, mais le gamin, là, Nagelsmann, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu plus dans ce métier, quoi.
Et la mouchie, on le met où?
Bah, la Mouchine, moi, j'ai envie de voir. Non, mais vraiment, j'ai envie de voir. Moi, j'ai toujours trouvé ce type, d'ailleurs, sa réaction, là, après les deux victoires.
Ah, ben, je voulais en parler dans les questions de la fin.
Magnifique. On sera dans un instant. Ce type est très intime. Mais moi, je le suis et je l'aime depuis longtemps, même quand il dirigeait la Côte d'Ivoire, alors que ça s'est pas toujours bien passé. Mais qu'il n'empêche, si t'en parles à Drogba ou à des gens comme ça, ils n'en diront que du bien. La Mouchi, j'ai envie de voir, parce que franchement, ça m'intéresse de voir ce que ça va donner.
Très bien. Bah justement, on va en parler dans un instant de Sabri Lamouchi. Dans les questions de l'after, on parlera également de Lille.
J'ai rien à dire, j'ai tout dit sur lui, ça y est.
Sur la Mouchi.
On attend de voir, c'est vrai. Ouais.
Non, mais il y a d'autres choses quand même qu'on va pouvoir développer sur Rennes et sur les autres clubs de Ligue 1. On vous attend également au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis aujourd'hui, grâce à RMC, on vous offre l'expérience incroyable comme depuis quelques semaines maintenant. Vous pouvez essayer la chute libre, la conduite sur circuit pour tenter de gagner ce très beau cadeau. Envoyez After par SMS au 732-16. Bonne chance et à tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont là dans l'After. Jusqu'à minuit, les drôles de dames se préparent avec un gros week-end en Angleterre notamment. On reviendra dessus avec Philippe Auclair. Les questions de l'After, mais juste avant, je vous donne quand même le score de Pro A du soir de basket. Victoire de Bourg-en-Bresse face à Pau, 91-82. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de suspense à écouter à la fin de Basket Time. Les questions de l'After, tout de suite. Alors, première question qui concerne Lille. Je vous ai entendu dans l'After la semaine dernière effleurer le sujet, mais j'y vais directement. Les bons résultats lillois, les deux victoires de suite, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'héritage de Marcelo Bielsa?
C'est compliqué comme question.
Daniel?
Non, parce qu'on est, enfin, c'est l'héritage. Non, je vais répondre ce que je pense, non.
Ah, c'est bien de répondre ce que tu penses.
Non, non, mais Daniel va sûrement dire oui, mais
je sais pas, Daniel, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense pas. Je pense que, d'ailleurs, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Voilà.
Il y a eu quelques changements de positionnement. Voilà,
de positionnement tactique, etc. Donc, après, est-ce que peut-être, enfin, Bielsa qui reste, et c'est là où je nuance, aurait peut-être gagné ces deux matchs aussi, quoi. C'est dur de dire que c'est mieux sans Bielsa ou c'est moins bien, je sais pas.
Ah, c'était pas la question.
Ouais, mais est-ce que c'est l'héritage?
C'est pas la question.
Est-ce que c'est l'héritage? Non. Pour moi, non.
Il a dit quoi, Sabri Lamouchi, après ses victoires?
Bah, c'était ma question d'après. Les bons résultats rennais sont-ils dus à l'héritage de Gourcuff?
Moi, je veux savoir ce qu'a dit Sabri Lamouchi.
Il a dit, c'est uniquement l'héritage de mon prédécesseur. Je fonctionne avec les joueurs présents. Je n'ai choisi personne. Donc, ça montre ses résultats que le travail d'avant était bien.
La situation de Rennes n'était pas la même que celle de Lille, hein. Faut le rappeler aussi, quand même.
Ah, ils restaient sur quatre victoires avec Gourcuff après avoir quand même eu une période un petit peu compliquée. Mais ça change rien du tout. Sabri Lamouchi aussi, là, fait des changements de poste. Hein.
Oui, non, pourtant, mais ça l'empêche pas
avec lucidité et intelligence de dire ce qu'il a dit.
Tu peux pas dire qu'une équipe qui reste sur 4 victoires de suite avec un entraîneur qui se fait limoger n'est pas dans un meilleur cycle.
Pourquoi il s'est fait limoger?
Ah bah ça c'est un autre débat. C'est peut-être même une erreur, j'en sais rien.
Mouchi, il a changé des choses aussi. Hein.
Je te parle du cycle de l'équipe, de la spirale dans laquelle ils sont.
Je pense que quand tu bosses depuis l'été avec une équipe qu'elle gagne deux matchs de suite, dire qu'il y a absolument rien de l'ancienne direction, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible, quoi. Que les changements de poste aient été utiles, oui. Maintenant, je continue à voir certains mouvements offensifs qui étaient déjà présents et qui existent toujours à Lille.
Ouais.
Ça c'est la vérité.
Sauf que il y a deux repositionnements. Enfin, tu exiges un équilibre avec ça.
Il y a des positionnements qui effectivement sont plus intéressants. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Et il y a surtout des mecs qui sont, ça se trouve, très bons. Sacramento, je sais pas s'ils vont le garder ou s'ils vont prendre un coach, mais faut se renseigner sur le travail de ce mec-là, d'où il vient. Je pense que ça peut être quelqu'un de très intéressant à suivre.
Puis il y a de bons joueurs quand même. Ça on l'avait remarqué même avec Bielsa, qui avait quelques bons joueurs à Lille.
Maya, Mendes sont des bons joueurs. Oui, bien sûr.
Ponce, on a envie de voir.
Ponce, qui commençait de plus en plus à jouer, va devenir titulaire. Je dirais même que les changements de joueurs là, moi, je pense qu'ils auraient également eu lieu sous Bielsa. Après, sous Bielsa, ce qui a pété, c'est.
Il a eu le temps de les faire, hein, Daniel.
Mais de toute façon, on le sait, hein, que son management n'a pas marché, ne peut plus marcher, et est trop compliqué. Ça, on découvre rien, on le savait d'avant. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est qu'on prenne quelqu'un et qu'après on s'étonne de ce qui se passe. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris.
Mais oui, ça t'as peut-être raison.
Là, maintenant, je préfère m'intéresser au présent, parce qu'il y a peut-être à un moment quand même, on va tourner la page, on va arrêter de s'intéresser à Lille parce qu'il avait cet entraîneur-là et s'intéresser au présent. Et j'ai envie de voir comment ils vont évoluer là, avec Da Cruz et Sacramento là. Parce que ça m'a l'air pas mal du tout, moi.
Oui,
les nouvelles idées, la façon dont les mecs parlent foot et tout. Je trouve que c'est intéressant.
On est d'accord. Alors, on enchaîne. Bah, alors, on y va quand même sur Rennes ou on a fait le tour? Est-ce que c'est l'héritage de Christian Gourcuff, ce qui est en train de récolter Sabri Lamouchi?
Bah, moi, en tout cas, la certitude que j'ai, c'est que c'était effectivement une équipe qui était pas spécialement malade, Rennes. Voilà. C'est une équipe qui était un peu en dent de scie, mais qui, là, pour le coup, était sur le haut de la dent, qui marchait plutôt bien, qui restait sur une bonne série et qu'à un moment donné, tu changes l'entraîneur à ce moment-là. Bon, bah voilà, parce qu'il y a tout un contexte qui va avec, mais tu le changes pas parce que ton équipe est mal.
Ouais.
C'est toute la différence. Donc, oui, pour Sabri Lamouchi, et d'ailleurs, il le dit lui-même, tu peux arriver à un moment donné à un changement de coach pour différentes raisons, mais le coach qui arrive ne change pas tout, ne révolutionne pas tout et profite aussi du travail qui a été fait avant. Ouais. Et là, ça a l'air d'être le cas.
J'ai deux petites questions sur Lyon dans mes questions de l'after. Est-ce qu'on tient d'ores et déjà, même si je sais que l'after n'est pas très favorable aux récompenses individuelles, mais est-ce qu'on ne tient pas déjà le meilleur espoir de la saison, la révélation, je ne sais plus la catégorie, avec Oussem Aouar, le Lyonnais? Vous pouvez me dire oui.
Bah, si ça s'arrête aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Mais il reste du temps encore.
C'est pas mal. Vu comment il est en train de s'installer.
Ouais, il est assez polyvalent, le gars.
Il peut jouer à plusieurs postes et tout. Qui pourrait mettre en concurrence, ouais. C'est surtout ça.
Révélation, ça veut dire mec dont c'est la première année en Ligue 1.
Ouais, ou jeune, je crois.
Tu vas mettre Aguilar. D'âge.
Non, ah, je l'aime bien, lui.
Ouais. Ouais, on en a parlé.
Même hier, il est encore pas mal.
Il est bon hier.
Il est pas mal. Non, Aouar, c'est très bien.
Ouais, parce que en plus, même en réfléchissant, après, il faudrait prendre un peu de recul, mais en réfléchissant, ouais, qui s'est imposé autant que lui là, pas grand monde.
Bon, après, il y a le temps, effectivement, dans la saison. Alors, j'avais une autre question aussi qui concerne la rivalité, la guéguerre, je sais pas comment on peut appeler ça, entre Mariano et Depay à Lyon. Et c'est Arthur qui va nous en parler au 32-16. Salut, Arthur.
Salut tout le monde, salut l'équipe.
Salut
Arthur. Toi, tu penses que ça peut coûter des points à Lyon, là, les petites guéguerres qu'il peut y avoir entre les deux?
Bah, je sais pas si ça peut coûter des points, parce que Lyon est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts, mais ça nous a coûté des buts. Par exemple, on a vu contre Caen, il y a, en dehors du moment où Maxwell a pris le relais derrière et par chance a marqué, il y a eu plein de moments où Mariano a décroché, où Depay a décroché. Ils sont pas fait les passes entre eux et peut-être que ça aussi, ça nous a coûté des buts. Et je me demande si, à terme, est-ce que ce serait pas mieux s'ils gagnaient un petit peu en maturité, ces deux-là, et qu'ils s'acceptaient, quoi.
Écoute, est-ce que ces excès d'individualisme chez les deux, ça vous marque encore?
Pour l'instant,
on a le souvenir du pénalty.
Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que Mariano, il enquille les buts et il est de mieux en mieux.
Il est toujours inconstant, mais ça va quand même vers le haut quand même. Ces dernières sorties sont
hier,
pas mal.
Hier, je le vois pas bien. La fois d'avant, je le vois bien. La fois d'avant, et souvent, quand on le voit bien, il se sauve parce qu'il marque. Mais il est franchement, il est. Moi, je trouve pas si dingue que ça.
Après, c'est deux attaquants, c'est des caractères d'attaquants.
Mariano me fait meilleure impression que l'autre, hein, qui est vraiment toujours un match oui, un match non quand même. Hein.
Parce qu'il a fait quand même des bons matchs, moi, de paille, je trouve.
Bah, sur les 16, je sais pas si t'arrives à faire 8-8. Hein.
Arthur, peut-être pas.
Faudra regarder, tu regardes tous les matchs de Lyon, tu fais combien sur Memphis, les bons et mauvais matchs, 8-8 ou mieux que ça?
Très franchement, je regarde pas tous les matchs parce qu'en général, moi, je travaille le soir, donc j'ai un peu du mal à voir tous les matchs, sauf quand ils jouent à 17h.
D'accord.
Ligue Europa, j'ai pas encore pu en voir un seul.
Je parlais des 16 de championnat, mais je pense que nos amis supporters lyonnais
sont au top sur les matchs de 17h. Mais il y a une malédiction sur les matchs de 17h. Lyon les perdait tous l'année dernière, donc pas mieux de gâter. Bon Arthur, merci en tout cas d'être venu au 32-16. À très bientôt dans l'after.
À très bientôt. Au revoir.
Autre question, comme le dit Pajot, Saint-Etienne joue-t-il le maintien?
Quel but de Pajot.
Ah oui, but magnifique. Oh. Mais est-ce qu'il joue le maintien? Il a dit, nous sommes conscients de la situation, à partir du moment où on est dans le bas de tableau et que c'est serré jusqu'au relégable, on va pas se leurrer, on joue le maintien. Sablé a dit, il n'y a pas de mot tabou, moi je préfère parler de moments difficiles quand même.
Ouais, mais enfin bon, de toute manière, moment difficile, maintien, je sais pas, mais tout ce qu'on voit en ce moment sur le terrain, et je me borne qu'au terrain pourtant, parce que après il y a tout ce qui va derrière. Honnêtement, le niveau qu'affiche Saint-Etienne, c'est le niveau d'une équipe qui va jouer le maintien.
Regarde les deux prochains matchs.
Tu le sais déjà si tu nous dis ça. C'est qui?
Donc c'est Marseille.
Ouais.
Et Paris?
Et Paris?
Non.
Monaco? Bordeaux? Ouais. Non, Bordeaux, il vient de
Monaco.
Monaco. Bon. Ouais, tu peux vite te retrouver dans une situation très difficile.
À la trêve, Paris, ils ont déjà joué, ils ont mangé au début de l'année.
Ah ouais, c'est vrai.
À la trêve, ça peut être compliqué quand même.
Ah bah oui, c'est clair. Mais de là jouer le maintien quand même?
Bah ils vont y être, Jean-Louis.
Non mais jouer le maintien,
vous voyez pas qu'il y a quand même deux ou trois équipes derrière? Oui.
Ah non, mais jouer le maintien, ça veut pas dire ils vont descendre.
Ça veut pas dire descendre, oui.
Non, ça veut dire qu'ils vont lutter jusqu'au bout, jusqu'à la 3-4 journée de la fin.
Ils sont un peu, tu sais, dans l'eau un peu boueuse.
Ils seront jamais tranquilles, quoi.
Ils sont pas, voilà, ils se font pas un bain de pied dans de l'eau propre.
Oui, non, ça c'est sûr.
Dans la petite bassine, là.
Oui, oui,
il y a déjà au moins 15 mecs qui se sont déjà lavé les pieds dedans, quoi.
Oh. Ouais, c'est un peu dégueu. Dernière question de l'after ce soir. Je vous ai entendu en parler aussi hier, mais est-ce que dans un classement des entraîneurs où on mettrait à la fois le talent pur de l'équipe et les performances, le nombre de points engrangés, est-ce que sur un classement comme ça, on doit considérer que Ranieri est le meilleur entraîneur de Ligue 1?
Ah, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, Nantes est peut-être l'équipe qui m'impressionne le plus en ce moment, ouais. Parce que collectivement, et c'est là aussi qu'il faut justement s'arrêter plus à ce qu'une équipe est capable de produire collectivement qu'à l'addition des individualités, parce que ce sera toujours l'équipe qui réussira le meilleur collectif qui sera plus forte que l'addition de l'individualité. Eh ben, Nantes, franchement, c'est très impressionnant. Je sais pas comment on peut critiquer cette équipe là qui est cinquième, donc en intercalé, à une position en plus avancée que d'autres qui ont certainement plus de moyens. Il n'y a pas de joueurs extraordinaires.
C'est l'idée de jeu, de bus, machin. Bon, voilà.
Mais il y a pas de bus. C'est quoi l'idée?
Moi,
du
je trouve
bus,
que c'est plus choquant à Montpellier.
Mais où est-ce qu'il y a un bus à Nantes? C'est quoi le bus de Nantes?
Non, c'est costaud, c'est bien organisé, mais ça contre très bien, et parfois t'as des périodes de jeu aussi qui sont,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Leicester, c'était un bus aussi? Ouais, ça a pu l'être sur certains matchs. Ils avaient cette capacité à sortir vite, ils avaient des joueurs de talent, parce qu'il y avait une sorte de circuit préférentiel qui était toujours un petit peu le même, hein, d'ailleurs, hein, qui était Kanté pour Mahrez, Mahrez-Vardy, ouais. Où il y avait aussi l'autre joueur.
Ou des fois Mahrez tout seul, qui est en train de rentrer et qui est marqué.
Il y avait un autre joueur là, qui était
Mahrez-Vardy.
Cette année-là. Il y avait
Au milieu ou de Drinkwater?
Non, l'Asiatique là.
Ah
merde, j'ai oublié son nom.
Non, il est à Tottenham.
Il est à Tottenham.
Ah, c'est en A.
Oui, enfin bon, peu importe.
Ouais.
Voilà.
Ouais, si, je crois.
Ils avaient des mecs qui tenaient la baraque et qui se battaient, tu vois. Et puis ils avaient les circuits préférentiels. Et ben là, à Nantes.
Okazaki?
Non, bon. C'est pas grave, laisse tomber, on s'en fout.
Et
à Nantes, il en a pas beaucoup, hein, des joueurs de qualité, hein. Habituellement, je cite Dubois, Rongier, j'oublie souvent de citer Thomasson qui est pas mal. Ouais. Après, il y a beaucoup de joueurs de devoir et c'est pas une honte d'être un joueur de devoir. Il y a un bon gardien et Ranieri avec ce qu'il fait. Ranieri, il le sait, hein, qu'il a plusieurs pieds carrés dans l'équipe. Hein.
Et si tu prends toutes les équipes de Ligue 1 aujourd'hui, tu pars du dernier de Metz et tu remontes jusqu'à Nantes. Ils sont soit derniers, enfin Metz on n'en parle pas, mais Angers, Toulouse, Lille, allez Strasbourg peut-être, Strasbourg 3, c'est peut-être des effectifs à peu près équivalents, tu vois, j'ai envie de dire, Guingamp, Nice, Saint-Etienne, Bordeaux, même Dijon, Montpellier, Caen, Rennes, enfin ça a des effectifs supérieurs normalement à Nantes, quoi. Donc le mec est au-dessus de tout ça, c'est pas le hasard, quoi.
Alors j'ai l'effectif de Leicester champion, il n'y a que Okazaki qui a un nom asiatique.
Tu vois, c'est
à moins qu'il y ait un au milieu. À moins qu'il y ait un Jonathan McCarthy là-dedans qui soit asiatique et avec un nom qui n'a rien à voir.
Je t'ai pas dit qu'il y avait un, c'est lui, c'est lui.
Ah oui, mais c'est bien lui, d'accord.
Okazaki.
Oui, c'est vrai, il y en a même deux. Donc bravo Pierre. OK, bon, sur Ranieri, mais attendez, pour aller au bout là dans les styles de jeu comme ça, Montpellier, vous trouvez ça très bien? Il y a rien à redire à ce que fait Der Zakarian? Moi franchement ça m'ennuie.
Ça nous ennuie.
Ils ont eu un début de saison catastrophique, on se dit y a pas de problème, il fait ce qu'il veut.
Non mais ça nous ennuie.
Il peut jouer ultra défensif, il y a pas de problème.
Non, c'est pas qu'il fait ce qu'il veut, c'est que déjà on est habitué avec lui et que il le fait plutôt bien. Je suis désolé. Enfin quand tu vois le match hier par exemple, voilà, il fait déjouer beaucoup d'équipes comme ça et ça marche.
Il peut pas jouer autrement.
Dans un championnat,
ce qui est déjà
en
important,
tout cas, il va pas sauter.
Voilà. Ce qui est déjà important, c'est ce qu'on a en ce moment, à savoir de belles locomotives.
Ouais.
Des locomotives qui ont toutes une moyenne supérieure à 2 points par match. ce qui est très positif dans le sens où voilà, ça tire devant. Il y aura une rude bataille pour la deuxième place et pour le podium, si on considère que le PSG.
Mais
est
tu trouves qu'elle est belle la bataille pour le podium?
Bah, je trouve qu'elle est assez intéressante.
T'as ce que tu attends, en tout cas. C'est sympa parce que c'est serré. Lyon, Monaco, Marseille. Hormis Lyon. Marseille et Monaco, ça joue pas très bien quand même. Ils sont un peu là par défaut. Faut quand même
chacun avec le... Ils sont pas là par défaut.
Non, mais ils sont extraordinaires.
Monaco, on n'arrête pas de comparer avec Monaco de l'année dernière.
Ce sont pas de gros 3e et 4e.
Monaco est à une période. Monaco, écoute, ce sont deux équipes qui prennent les points qu'il faut prendre.
Moi, j'ai vu Monaco Angers samedi soir, c'était pas extraordinaire.
Oui, mais on ne dit pas qu'ils ont fait que des bons matchs.
Les matchs de Marseille, n'arrête pas de dire que c'est quand même pas extraordinaire.
Mais enfin, le problème de nos clubs, c'est que c'est de la perpétuelle reconstruction. Monaco est de toute façon encore une fois en reconstruction. Il y a deux ans, ça jouait pas bien et Jardim faisait tout pour coller les morceaux pour faire en sorte que l'équipe ressemble à quelque chose et qu'elle ait des résultats.
Il a fait des miracles.
L'année d'après, ça a régalé. Cette année, il repart comme il y a deux ans. C'est ça un peu le problème. Et Marseille, on avait parlé également la semaine dernière. T'as l'impression que c'est tous les ans que ça doit recommencer.
Marseille, alors, c'est qu'ils ont fait des grosses
erreurs.
Alors,
il y a des jours où on arrive, où on est sévère, on dit, putain, Garcia, c'est relou, machin, il arrive pas. Alors, il faut qu'il compose avec Payet, qui est la star de l'équipe, qui met pas un pied devant l'autre, avec Sanson, qui fait pas jouer dans sa position, avec Gustavo, qui est le meilleur joueur de l'équipe, avec Thauvin, avec un neuf qui est pas là, Thauvin qui tient l'équipe offensivement. Voilà, c'est une reconstruction. T'es déjà obligé de penser à l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont continuer avec Payet ou pas? Parce que si tu continues avec lui, que tu vas en Ligue des Champions, t'es sûr que tu iras nulle part. Enfin, tu vois, le problème de nos clubs, c'est cette forme de stabilité.
Ouais, mais
n'as pas cette stabilité qui te permet d'installer des styles, un entraîneur, une philosophie, de développer ta politique.
Monaco le veut. Enfin, c'est un souhait. Voilà, ils ont choisi de faire ça.
Ah, oui, non, mais je suis d'accord. C'est un souhait de ne pas avoir ça.
Ouais, c'est un souhait
de... à chaque fois.
Exactement.
Là, on est d'accord.
Marseille, c'est plus des erreurs de casting. Hein.
Marseille, c'est sans arrêt. Ça recommence à chaque fois. Et là, on se dit est-ce que là, ça va un peu perdurer. Voilà, c'est ça aussi qui fait un coup ça va, un coup ça va pas.
Là, tu me donnes des explications de mon constat que c'est pas extraordinaire.
Un coup t'as des bons matchs, un coup t'as des pas bons matchs, un coup t'as des équipes qui jouent bien, c'est ça qui est compliqué.
Dans un instant, on revient à nos histoires de bus avec un bus de luxe en Angleterre, celui garé par José Mourinho. C'est la vie tranchée de Philippe Auclair, les drôles de dames arrivent, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.